Au programme de Bruit de Chine ce mois-ci, histoire. Je reçois dans le studio de Radio Campus Catherine Costanza. Passionnée d'histoire, Catherine Costanza est l'auteur des Oubliés de Nolette aux éditions Ed Strapontin. Un ouvrage qu'elle a dédié aux 145 000 travailleurs chinois venus en France durant la Grande Guerre. À travers ses recherches, elle milite pour la reconnaissance mémorielle de ces hommes qui, pendant un siècle, furent contraints à l'oubli. Catherine Costanza, bonjour.
Bonjour et merci de m'avoir invitée.
Oh bah c'est normal, vu le sujet qui nous intéresse en ce moment. On est en pleine période de commémoration quand même, et ça aurait été dommage de le rater. Vous êtes bien sur le 106.6 de la bande FM et vous écoutez Bruit de Chine sur Radio Campus Lille. Nous sommes en compagnie de Catherine Costanza, auteure des Oubliés de Nolette, pour parler des 145 000 Chinois qui ont travaillé en France, dont beaucoup dans nos régions septentrionales que l'on appelle aujourd'hui les Hauts-de-France. Alors Catherine Costanza, comment cette histoire de travailleurs chinois de la Grande Guerre est-elle entrée dans votre vie ?
D'une façon totalement inattendue, fortuitement, faisant d'autres recherches, puisque je suis depuis longtemps passionnée d'histoire et surtout la Première Guerre mondiale, je suis tombée sur Internet, sur un petit dossier sur le cimetière chinois de Noyelle, de Nolette en réalité, et sur un travail accompli à Saint-Angoël par un maître d'école et ses élèves. Et je me suis interrogée, vraiment je me suis posé la question, je ne savais pas qu'il y avait eu des travailleurs chinois, des Chinois enrôlés en France. Et petit à petit, je me suis aperçue que c'était des civils et non des militaires. Et j'ai été vraiment curieuse et piquée au vif, parce que quand même, 100 ans après, on n'en parlait toujours pas. Et je me disais, comment se fait-il que rien ne soit fait, rien ne soit dit? Et finalement, je dirais de fil en aiguille, cette histoire m'a totalement engloutie, au point de tout abandonner pour ne plus m'occuper que de faire ces recherches. Et donc depuis 14 ans maintenant, depuis 2005, je travaille sur ce sujet-là. Je pense en avoir fait un bon tour, mais ça a changé ma vie. Je dirais que ça a totalement bousculé mon existence.
De quelle manière ?
Je n'ai plus pu abandonner ces recherches parce que j'avais le sentiment que, à partir du moment où ces hommes avaient été abandonnés, méconnus, je dirais, je me suis rendu compte en discutant, même avec des historiens, que très peu de gens connaissaient quelques bribes de cette histoire. Et j'en étais vraiment très, très, très triste, mais très inquiète aussi, parce que je me suis posé la question de savoir si on nous cache des dossiers comme ça, qu'est-ce qu'on peut nous cacher d'autre aussi concernant cette guerre qui a été terrible. Parce que pour moi, la Première Guerre mondiale a concrètement commencé en 1911. Sur l'échiquier, tout se mettait en place déjà en 1911. Mai 1914, la Marine nationale déployait déjà des croiseurs cuirassés en Méditerranée. Et l'archiduc, ça a été une étincelle attendue, je dirais.
Oui, c'est ça, tout était prêt, mais il fallait l'étincelle.
Oui, il fallait l'étincelle et les travailleurs chinois. Alors, vous connaissez l'histoire de la Première Guerre mondiale, hein, qui devait être brève et qui ne l'a pas été du tout.
La fameuse Der Déder.
Oui.
La Der Déder.
A été extrêmement sanglante et très, très, très vite, après les 6 premiers mois de guerre, ils se sont rendus compte qu'il manquerait d'hommes et ils ont fait appel aux colonies, à la main-d'œuvre coloniale. Mais la Chine n'étant pas une colonie, ça, hein, ils avaient une concession en Chine. Et ils ont décidé de recruter, après avoir mis sur pied plusieurs accords, ils ont créé la mission, ce qu'on appelle la mission principale de recrutement, la mission Truptil, donc qui était censée être une mission civile, agronome. Et ils ont fait passer un colonel de l'armée, Georges-Auguste Truptil, qui avait combattu en Chine, qui avait vécu en Chine, qui parlait le chinois. Ils l'ont fait passer comme un ingénieur agronome pour ne pas affoler la population, pour ne pas alerter non plus les Allemands qui avaient une concession dans le Shandong. Et alors, ils ont commencé un recrutement pour l'industrie française et aussi le travail remplacer les paysans, le débardage, les poudreries, les usines d'armement et les usines chimiques, et aussi tout ce qui est atelier de réparation de mécanique automobile. En gros, c'était ça le recrutement.
Mm-hmm. Alors, nous sommes en pleine commémoration du centenaire de 1918, on l'a dit tout à l'heure. Est-ce que vous avez l'impression que les travailleurs chinois sont maintenant entrés dans la mémoire officielle de la Grande Guerre ?
Non, toujours pas. Toujours pas, parce que nous en sommes vraiment au premier pas. Cette reconnaissance des travailleurs chinois, c'est pour moi une goutte d'eau dans un verre d'eau qui va déclencher un raz-de-marée dans ce même verre d'eau, parce que il faut quand même pas oublier que pratiquement près de 20 000 travailleurs chinois sont morts sur le sol français, et non, beaucoup, beaucoup, bien sûr, de maladies liées aux très, très, très mauvaises conditions d'hébergement, de travail, de malnutrition, mais aussi beaucoup au front. Parce que nous, en France, nous en avons recruté près de 40 000, mais n'oublions pas que l'Angleterre en a recruté 100 000. Et là, aujourd'hui, nous parlons des travailleurs chinois sur le territoire français, donc environ 140 000. Mais le plus grand recruteur de travailleurs chinois de la Première Guerre mondiale a été la Russie, qui en a embauché pratiquement 250 000 pour pouvoir assumer le chantier le plus gros, le plus monstrueux qu'il y a eu de la Première Guerre mondiale, c'est le désenclavement de la Sibérie et de la Mandchourie. Donc on recrutait sur le Hubei des travailleurs chinois qui étaient aguerris au froid et qui étaient solides. Et on sait à peu près que 150 000 travailleurs chinois sont retournés au pays ou se sont mariés en Russie ou ont fait souche en Russie. Mais il y a environ entre 80 et 100 000 travailleurs chinois dont on ne sait ce qu'il est advenu. Concernant les Anglais, ils en ont recruté 100 000, plus ou moins. Les chiffres ne sont pas précis, jamais, puisque rien n'a été fait correctement, rien n'a été bien enregistré. Mais 100 000 sur le territoire français, déployés, je dirais, de Dunkerque à Verdun, concernant l'Angleterre, ils ont contribué réellement, je le pense sincèrement, ils ont été un des maillons actifs qui nous ont conduits à la victoire. Actifs, silencieux et tus. Toujours dans l'ombre, car ils étaient sous le sceau du secret défense. Et quand on les a recrutés et transportés, les Anglais, je parle, hein, à travers le Canada, et ils étaient enfermés dans des trains verrouillés avec les vitres peintes en noir. Et toutes les photos dont on dispose de travailleurs chinois aux fenêtres de ces fameux trains de la honte, je dirais, sont des photos de propagande. Parce que dans la réalité, pendant un mois, ils ne descendaient pas du train. Ils voyageaient nuit et jour et on les débarquait à Halifax, de Vancouver à Halifax, pour les embarquer ensuite pour Le Havre, Dunkerque. Oui,
c'est
Boulogne.
C'est un sacré voyage, donc ils arrivaient déjà un peu zombies sur notre sol.
Alors, ils partaient de Weihai en Chine, ils arrivaient à Vancouver, traversant vraiment, c'était réellement extrêmement dangereux, parce que n'oublions pas l'armada allemande, qui était très puissante au niveau des sous-marins et qui traquait tous les navires. Ensuite, on les déchargeait à Vancouver, à Halifax, et puis le voyage pouvait durer jusqu'à 3 mois. Enfermés en cale, en soute, dans des wagons. Il y a eu beaucoup de cas de suicide, d'épidémie évidemment, hein, c'était inévitable. Et quand ils arrivaient en France, alors ça c'est pour les Anglais, on les mettait au dépôt principal, il y en avait un au Havre, il y en avait un à Noyelles-sur-Mer, et là ils se reposaient quelques jours et étaient affectés, ensuite déployés sur toute la ligne Hindenburg, hein, jusqu'à Saint-Quentin, en passant par la bataille d'Arras, Cambrai. Leur travail était principalement d'acheminer le matériel à la main, de réparer les voies ferrées. Les voies ferrées, ce qu'on appelle les voies de Coville, les voies étroites, pour l'acheminement du matériel lourd. Et ils entretenaient les tranchées, déterraient les cadavres. Et quelque chose que nous devons savoir et ne jamais oublier, c'est que l'armée anglaise, en 1918, la préparation de 488 chars pour la bataille de Cambrai. Et ce sont les travailleurs chinois qui les ont préparés.
Et du côté d'Arras.
Voilà, et ils ont absolument travaillé nuit et jour pendant 2 mois pour pouvoir... C'est pour ça que je maintiens quand je dis que réellement les travailleurs chinois qui ont été en tout dans cette grande guerre, je dirais, estimés à l'ordre de 500 000, ont réellement contribué. Parce que les passages maritimes étant tellement dangereux qu'ils ont décidé, les alliés, les Russes, d'acheminer le matériel et les hommes par voie ferrée en traversant l'Europe. Et donc, pour ça, il fallait vraiment désenclaver la Sibérie et faire rejoindre la Sibérie à Harbin, qui était le dépôt général des recrutements russes pour la Première Guerre mondiale concernant les travailleurs chinois. Et de là, ils partaient sur la Corée, sur le Japon, et traversaient l'Europe et arrivaient à Paris.
Quel voyage. En tout cas, ils faisaient plutôt le sale boulot. Alors moi, j'ai quand même l'impression que votre combat commence à aboutir, parce qu'il y a quelques jours, je pense que c'est le 12 novembre au soir, il y a eu un documentaire qui a été diffusé sur France 3, qui leur rend quand même hommage. Et on a l'impression, autour de soi, les gens commencent à se dire « Ah mais tiens, il y avait des Chinois pendant la guerre de 14, donc peut-être que votre obstination commence à payer ?»
Alors, les documentaires en France concernant les travailleurs chinois ont commencé réellement vers 2009, des petits spots de documentaires, parce qu'à l'époque, c'était très difficile de trouver des témoignages des descendants de travailleurs chinois. Et réellement, très franchement, en France, nul ne connaissait l'existence. Moi, je me souviens, ma première expo, c'était en 2010, je crois. C'était le grand point d'interrogation. Les gens étaient étonnés, ne connaissaient pas du tout l'histoire. Et puis c'est réellement, à force de persévérance et puis de contacter les mairies, d'en parler, de parcourir la France pour faire des conférences, même dans des villages, que petit à petit, l'information, ça fait un effet boule de neige. Et puis surtout, à qui je voudrais rendre hommage, c'est à Madame Lima, oui, qui, elle, a commencé ses recherches en 2002, 3 ans avant moi, et qui a beaucoup contribué à cette transmission de connaissances. Et elle, je la salue à toutes mes conférences, et Gregory James, qui a écrit un ouvrage majeur et également en Angleterre, hein, sur les travailleurs chinois.
Alors en tout cas, Lima était à ce même micro que vous il y a quelques mois, en janvier 2018, pour parler effectivement de ce même sujet, d'une autre manière, parce qu'effectivement vos recherches se recoupent bien sûr, mais elles sont quand même, même si le sujet est le même, il y a quand même une différence peut-être dans la manière de les mener, et puis dans la manière d'en rendre compte aussi.
Oui.
En tout cas, moi j'ai l'impression que le souvenir français a joué un rôle important finalement dans ces toutes dernières années. Pas au début, mais maintenant.
Non, pas au début, puisque de toute façon, l'information n'était pas réellement relayée. Donc le souvenir français qui mène en amont un travail de mémoire colossal, et que je salue ici aujourd'hui réellement, n'a été... En fait, l'histoire du souvenir français, ça s'est fait de manière tout à fait, je dirais un peu... inattendu, parce que ça a été par les différents contacts qu'ils ont pu avoir avec de jeunes Chinois que ça a réveillé ça a révélé le sujet et réveillé la conscience, avec derrière 4-5 personnes et quelques descendants qui cherchaient, qui menaient des enquêtes. Ça a fait réellement un effet boule de neige. Aujourd'hui, je dirais que une partie de la population est au courant de ce sujet-là, parce qu'une partie s'y intéresse. Et beaucoup de gens ne pensent pas que les travailleurs chinois, puisqu'ils étaient des civils, ne méritent pas autant de reconnaissance qu'aurait pu avoir un poilu, parce que moi je le dis, je l'assume, je pense que les poilus ont encore plus souffert que les travailleurs chinois. Tout le monde Bien dans sûr. Les tranchées a beaucoup plus souffert que les travailleurs, d'une certaine façon. Oui. Mais ils ont tous été reconnus.
Mais bon, en même temps, on n'est peut-être pas là pour faire, comment dire, un état des lieux, des souffrances.
Ce que je veux dire, c'est que on parle de la reconnaissance des travailleurs chinois. Tout le monde dans cette guerre, au travers de cette guerre, a été reconnu, mais pas eux. Bien que d'autres aient pu en voir des belles et des pas mûres également. Mais eux, ils n'ont pas eu leur mystère joyeux non plus, parce que quand, par exemple, quand il y avait des grandes offensives un peu... je dirais entre guillemets prévu, les Anglais, les Français évacuaient les villages. On évacuait les prisonniers de guerre allemands qui étaient quand même sous le joug de la loi de la Convention de Genève. Mais on n'évacuait pas les travailleurs chinois, qui eux étaient terrifiés et terrorisés.
Mais ça en dit long quand même sur la considération qu'on leur portait.
Aucune considération, voilà. Aucune. Là, je pense réellement qu'à part l'empathie de quelques paysans, de quelques officiers aussi, hein, parce que... Alors, ils avaient des contrats civils, de 3 ans pour l'Angleterre et de 5 ans pour la France, mais toujours encadrés par l'armée. Toujours. C'était vraiment un encadrement très strict, très rigoureux. Et même quand ils travaillaient aux usines d'armement, aux poudreries, il y avait toujours un officier en accompagnement derrière, toujours.
Alors pour rester dans le peu de considération, en tout cas dans l'état d'esprit des Français envers les Chinois, dans votre livre, donc Les Oubliés de Nolette, J'ai trouvé la lettre d'un soldat français que j'ai trouvée tout à fait intéressante. Donc je vous cite le passage. Donc la Chine où nous allons de nouveau faire la guerre s'est refusée avec obstination à laisser pénétrer chez elle le progrès et la civilisation européenne. Elle combat de toute sa force la propagande de la religion catholique ou protestante faite par les missionnaires européens ou américains. Les missionnaires catholiques notamment, qui sont les principaux agents de la religion et de la civilisation européenne, ont été victimes de nombreux massacres. Comme le catholicisme est placé sous la protection française, la campagne actuelle n'est que la conséquence de la haine implacable des Chinois pour les Européens et du massacre des missionnaires et des chrétiens dans toute l'étendue de l'Empire. Massacres qui sont encouragés par le gouvernement. La Chine n'a donc qu'à s'en prendre à elle-même de tout ce qui va lui arriver, mais il faut souhaiter que l'on règle cette question une fois pour toutes et qu'on ne se laisse pas séduire par de brillantes promesses que les Chinois ne tiendront jamais, tout le monde le sait. Bon, on peut dire que oui, c'était pas très bienveillant.
C'est la lettre du soldat Silbermann qui a été écrite donc avant la guerre 14-18, puisque on relate des faits qui datent de 1903 quand ils sont venus pour faire la dernière campagne contre les Boxers jusqu'en 1909. Voilà. Quand la guerre 14-18 a éclaté, n'oublions pas que la Chine, elle, sortait d'une période extrêmement dure de guerre et de lutte contre les colons qui étaient établis. Et quand il y a eu le recrutement, c'est vrai que j'ai été étonnée qu'ils se proposent en si grand nombre pour être recrutés. Du fait qu'ils aient été abusés au moment du recrutement, parce que on leur a jamais dit qu'ils allaient dans un pays en guerre. Si on se remet dans le contexte de 1916...
Ça, c'est inouï, ça.
Oui. Il n'y avait donc aucun organe de communication dans les campagnes chinoises. Alors, je fais un petit parallèle avec ce qui peut se passer actuellement. Les migrants, on leur faisait la promesse de partir à l'étranger, dans un pays lointain, où ils gagneraient de l'argent, ils pourraient envoyer de cet argent une partie à leur famille, une partie vivre là-bas. Mais eux se sont engagés en masse. En masse.
Parce qu'ils étaient très pauvres.
Parce qu'ils étaient très pauvres. Ils sortaient de la guerre des Boxers, ils sortaient de un siècle de guerre de l'opium et un siècle de guerre de religion, parce que réellement, il y a eu une colonisation. Les Européens rêvaient d'une Chine catholique.
Mmh. Ouais, on le dit bien dans la lettre. Hein.
Ils le disent réellement. Bien dans cette lettre. Hein. Mmh. Donc il y avait cette espèce de colère contre le Chinois qui ne voulait plus se laisser faire. Il y avait quand même un pays. Et c'est le mot qui était dépecé par les Anglais, les Américains, les Belges, les Français, les Italiens. Tout le monde avait sa concession.
Les Allemands.
Après plusieurs tractations, la Chine demandant à ce que les travailleurs chinois ne soient pas confrontés à la guerre puisqu'ils étaient non armés, incapables de se défendre, elle a fini par accepter les recrutements. Mais elle s'est engagée militairement en 1917. En échange de quoi elle retrouvait son état souverain en cas de victoire des alliés, de mettre dehors les Allemands du Shandong. Seulement, au moment du traité de Versailles, humiliation et on a mis dehors les Allemands, mais on a installé les Japonais.
Oui, ce qui n'était pas beaucoup mieux pour les Chinois. Mmh. Et donc, du coup, ils étaient neutres quand même, il ne faut pas l'oublier, donc de 14 à 17.
Oui.
Ça, c'est important. Et d'ailleurs, pour revenir un peu sur l'histoire, vous faites en ouverture de votre livre Les Oubliés de Nolette, un petit état des lieux, plus ancien d'avant 14. Et vous commencez en 1840. Et pourquoi choisir cette date de 1840?
Alors, j'ai choisi cette date parce que c'est réellement à ce moment-là que l'Empire britannique décide de s'installer. C'est une articulation sur le négoce international que a pu connaître la Chine, tant pour la soie que pour l'opium. Alors, voilà, il y a eu la première guerre de l'opium et à la deuxième guerre de l'opium, parce que la Chine ne voulait pas produire d'opium. Il y avait une sagesse chinoise qui n'utilisait l'opium que pour soigner, que pour guérir, que pour soulager les douleurs. Et les Chinois, qui se fournissaient en opium en Inde, les a contraints à planter. Et ça a été très violent, ça s'est fait réellement dans un rapport de force et de violence. Il y a eu la création des banques, les comptoirs, tous les comptoirs qui se sont créés le long du fleuve jaune, il y a eu les traités. C'est réellement, je dirais jusqu'en 1900, une période d'installation des colonies. En toute puissance, ça a été un empire financier colossal qui s'est construit en Chine, au détriment de la Chine, je dirais.
Alors, pour la soie, on peut rappeler les soyeux de Lyon, évidemment.
Lyon, bien sûr. Et la création du Crédit Lyonnais.
Voilà, c'est ça. Le Crédit Lyonnais, dont on oublie qu'il était en Chine et qu'il a fait effectivement de très bonnes affaires là-bas. Et puis les fameuses messageries maritimes de France qui ont ouvert la ligne Shanghai-Marseille en 1864 et qui ont joué un rôle important dans la venue des travailleurs chinois.
Oui, les travailleurs recrutés par la France, principalement transités par les messageries maritimes. Il faut savoir une chose, c'est qu'en temps de guerre, quand on convoie des hommes, que ce soit des civils ou des militaires ou du matériel, c'est une armada, c'est-à-dire qu'ils sont... Le navire ne voyage pas seul comme ça, c'est impossible. Il y a toujours un navire qui précède, un à droite, un à gauche, un derrière. Ils sont encadrés, mais quand ils sautent sur des mines, quand ils sont torpillés par des sous-marins, là, il n'y a pas de pardon, tout le monde coule. Ça a été le cas d'ailleurs dans des messageries avec la TOS, dont on parle beaucoup, parce qu'il y a eu plus de 500 travailleurs chinois qui ont coulé, qui n'ont pas pu être... Parce qu'en fait, quand le navire a été torpillé, qu'il a commencé à couler, tout le monde s'est sauvé. Mais les ordres étaient donnés en français d'évacuer le navire. Il y avait très peu de traducteurs et tout le monde était en cale. Ils n'avaient pas formé assez de traducteurs. Les travailleurs chinois ne savaient pas ce qu'on leur demandait. Ils savaient pas par où il fallait passer, comment il fallait procéder, et ils ont coulé.
C'était où ?
Je crois que c'était au large de Malte.
Alors, ce serait en Méditerranée.
Oui, mais il faut savoir une chose, c'est que des accords avaient été passés aussi avec le Japon, dont il ne faut pas sous-estimer la flotte, entre les États-Unis et le Japon, qui avait, par exemple, le Shigizan Maru a coulé aussi au large de Malte, avec à son bord des travailleurs chinois qu'il convoyait pour les emmener à Port Saïd. Parce que Port Saïd, qui était un protectorat anglais à l'époque, servait de plateforme d'articulation, de respiration, et c'était vraiment le grand dépôt d'hommes, de matériel, en provenance du monde entier pour approvisionner le front français. Donc on déchargeait tout le monde pour la France, hein, les travailleurs chinois, tout comme les réfugiés arméniens. Réellement, Port Saïd a été un lieu hautement stratégique.
Pour toutes, pour les immigrations aussi, donc, puisque vous citez les Arméniens.
Oui, oui. En 1915, quand 4 croiseurs cuirassés sont tombés sur plus de 4000 Arméniens perdus, pris en étau entre les Allemands et les Turcs, sont venus les secourir. Ils les ont débarqués avec l'accord du gouvernement anglais à Port Saïd pour pouvoir ensuite les envoyer au dépôt de Marseille, tout comme les travailleurs chinois l'année suivante d'ailleurs. D'autres ont été envoyés au Maroc. D'autres sont restés en Égypte un certain temps et beaucoup d'hommes se sont enrôlés dans l'armée française.
Donc finalement sur la route, donc ceux qui débarquent d'abord dans nos ports des côtes du Nord, c'est plutôt les travailleurs anglais, Chinese Labour Corps, et ceux qui sont destinés à la France, ils arrivent par le sud, par Marseille,
oui,
et ils remontent
Marseille ou le Havre.
En train. Ah oui, ils arrivent aussi au Havre. Oui. Et sinon, ils arrivent sur notre front en train, alors que les Anglais, ils sont à pied d'œuvre en fait.
Oui.
Mais ils ont fait un énorme voyage. Ils ont fait le tour de la Terre.
Ils ont fait le tour de la planète en fonction des possibilités de navigation. Parce que si un canal était occupé par les Allemands, on en empruntait un autre. Alors je voudrais revenir sur quelque chose qui, pour moi, fait partie, puisqu'on est dans les commémorations. L'on traite toujours des 140 000 travailleurs chinois venus en France. Moi, je voudrais réellement qu'on comprenne le parcours qu'ont suivi ces travailleurs chinois recrutés par les Anglais, toujours dans le cadre des alliés, hein, on est toujours, ce sont nos alliés, les Chinois. Des travailleurs chinois ont été recrutés pour faire la campagne de Mésopotamie, aujourd'hui l'Irak, la campagne d'Afrique du Nord, la campagne de Palestine, avec la prise de Jérusalem. Des travailleurs chinois ont fait les campagnes recrutés par la Russie. Alors, je voudrais revenir sur les 227 travailleurs chinois. 5 à 6 000 travailleurs chinois ont été recrutés dans le cadre du Chinese Labour Corps par la mission montée par Douglas Haig, pour être emmenés pour réparer les pièces détachées des barges de déchargement de matériel arrivées en Irak, enfin en Mésopotamie. Mm-hmm. Au bord du Tigre, et en pièces détachées, et c'était les travailleurs chinois qui les montaient. Et ça, on ne le sait pas, on n'en parle jamais. Et à Majd, là, il y avait vraiment les docks consacrés à la reconstruction, au montage de ces barges. Sont morts 227 travailleurs chinois qui ont été enterrés sur le lieu même du chantier et abandonnés dans cette fosse commune. Et à l'issue de la guerre, la commission du Chinese n'a pas voulu les reconnaître comme faisant partie du Chinese Labour Corps.
Et on sait pourquoi ?
Non, pas pour l'instant. Pas pour l'instant.
Mais vous allez le savoir, j'en suis sûre.
Ça finira par se savoir, oui.
Vous êtes en train de chercher, j'imagine. Ce sera l'objet d'une prochaine émission spéciale. Oui. Les travailleurs chinois dans ce qui est l'Irak aujourd'hui. Alors avant d'aller plus avant dans cette évocation des travailleurs chinois, je propose une petite pause musicale. Et on se retrouve juste après avec Catherine Costanza. Chine sur le 106.6 de Radio Campus ainsi que sur le DAB+, et nous sommes en compagnie de Catherine Costanza à propos des travailleurs chinois dans la Grande Guerre. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi les Anglais ont choisi d'établir le camp des Chinois à Noyelle, près d'Abbeville ?
Oui, globalement c'était géographiquement le point le plus idéal pour eux, parce qu'ils étaient réellement pas loin des régions nord du front belge. Ils n'étaient pas loin de la Picardie maritime, hein. Ils ne sont pas loin non plus de la mer. Il y a des zones de débarquement tout proches pour l'armée, hein. Je pense à Dunkerque, je pense au Havre, c'est pas très loin non plus pour eux. Et surtout, ils sont près de la ligne Hindenburg, ils sont près de la ligne de front. Dunkerque, Arras, Cambrai, Saint-Quentin, c'était réellement l'objectif, c'était enfoncer les lignes allemandes pour les faire reculer. Et c'est là où il y a eu d'ailleurs les deux batailles de la Somme ont été les plus sanglantes pour les Anglais, hein. Je parle pour les Anglais, les plus sanglantes et les plus destructrices. Et c'est là où réellement ils avaient besoin de main-d'œuvre.
Alors donc la capacité d'accueil du camp était de 3000 personnes en moyenne. Bon, j'imagine qu'évidemment, il y a eu plus de 3000 personnes dans ce camp.
Alors, 3000 personnes, pas plus, parce que c'est un camp, mais c'était un hôpital. C'était l'hôpital, le dépôt principal pour les Anglais de travailleurs chinois. Donc, il y avait l'hôpital principal. Et puis, tout autour, il y avait les dépôts d'armement, il y avait, comme à Seigneville. Là, il y avait le dépôt de munitions le plus important de l'armée anglaise pour la Picardie maritime. Et au début, il y avait très peu de lits ouverts, hein. Il y avait des blocs avec 100, 150 lits. Et puis tout de suite après la bataille d'Arras, on a commencé à doubler, tripler, quadrupler les effectifs pour arriver à une capacité d'accueil hospitalière de 2500, 3000 travailleurs chinois, plus l'encadrement. Donc c'était réparti sur 34 hectares. Ils avaient même été contraints de créer un bloc de psychiatrie liés aux états psychologiques et mentaux des travailleurs chinois qui avaient été sous les bombes, qui étaient terrorisés parce qu'ils avaient l'habitude de se cacher dans les tranchées, mais on n'ouvrait pas les camps. Alors réellement, quand Noyelles-sur-Mer a été menacé de bombardement, là ils avaient essayé d'évacuer des travailleurs chinois, mais seulement dans les tranchées, pas plus loin que dans les tranchées. Alors c'était pas très rassurant.
C'était pas l'endroit le plus sûr, les tranchées, quand même.
Non, pas vraiment, hein.
Effectivement. Pour les Anglais, il y avait le fameux YMCA dans les camps, le Young Men's Christian Association, qui s'occupait des travailleurs chinois. Et qu'est-ce qu'il y avait pour les Français ?
Alors pour les Français, il y avait la Croix-Rouge, la Croix-Verte. Les travailleurs chinois qui ont travaillé pour la France ont été dans des camps, je dirais, industriels, parce qu'ils avaient des cités. Par exemple, aux usines Schneider, ils avaient construit la cité Mably, il y avait des grandes cités dortoirs, mais c'était réellement que des dortoirs avec des latrines absolument insupportables. Il y avait quand même un service médical avec quelques lits toujours pour eux. Mais ils le disent tous, hein, les grands-pères ont un peu parlé, se sont un peu confiés en disant que de toute façon, ils ont préféré être rattachés à la France qu'à l'Angleterre.
Et parce que la France les traitait mieux ?
La France les traitait mieux, un petit peu mieux. Et puis je pense qu'ils étaient moins brutaux vis-à-vis d'eux. Peut-être plus ignorants, parce que les Anglais avaient une grande connaissance de la Chine.
Bien sûr, avec les guerres de l'opium déjà.
Oui, mais les Français moins. Et puis il y avait une curiosité. Mais alors là-dessus, il est important de savoir qu'il y avait des ordres qui avaient été donnés, des ordres gouvernementaux, pour interdire la rencontre des travailleurs chinois avec les Français. Des campagnes, par exemple, et dans les villes, ils n'avaient pas le droit de se parler, mais malgré tout, ils se faisaient des petits échanges, parce qu'au camp de Noyelles-sur-Mer, par exemple, ils avaient des hectares de potager que les travailleurs chinois avaient établis pour pouvoir survivre et compenser la malnutrition, et ça leur arrivait d'échanger des légumes contre d'autres choses qu'ils ne connaissaient pas, contre de la viande aussi, parce que ce soit la France ou l'Angleterre, on les obligeait à manger du cheval, qui est un animal sacré en Chine, et c'était terrible pour eux. Hein.
Alors vous dites qu'ils aimaient les pommes, ils faisaient des folies pour les pommes.
Oui, parce que c'est un fruit qu'ils ne connaissaient pas. Et alors là, ils se faisaient évidemment voler par les paysans qui leur vendaient les pommes à prix d'or, et eux l'échangeaient contre des petits objets d'artisanat de tranchées, quelques légumes. Mais tout était précieux pour eux. Il y avait quand même aussi cet immense étonnement qu'ils ont eu de découvrir l'Europe, malgré les mauvaises conditions. Hein.
Bien sûr, et ils étaient venus pour ça, dans l'idée de découvrir l'Europe, justement, pas de devenir un peu esclaves de nos armées. À quoi ressemblait la vie quotidienne, justement, d'un travailleur chinois dans le Pas-de-Calais, dans les années 17-18 ?
Alors, dans le Pas-de-Calais, il y avait les travailleurs chinois, donc c'était plutôt les Anglais qui les encadraient, et la vie quotidienne, c'était réellement le front et l'arrière-front, directement, la manutention des obus, le déminage, renforcer les tranchées, et puis restaurer les fameuses voies de Coville étroites pour l'acheminement du matériel lourd, la réparation des tanks. Il y avait 2 repas par jour, pris rapidement, et puis je crois qu'ils avaient 3 jours de congé par an, pour le Qingming, la fête des dragons et la fête de la lumière, je ne sais plus comment ça s'appelle.
Fête des lanternes.
Fête des lanternes.
Eux, ils travaillaient 10 heures par jour, il me semble.
Voire plus, hein.
Officiellement.
Oui, voilà, officiellement, c'était du matin au soir, des journées bien remplies, mais je pense que... Alors, quand ils naviguaient le long du front, il y avait le camp principal. Il y en avait un au Havre, il y en avait un à Rouen, il y en avait un à Noyelles-sur-Mer, bien sûr. Là, vraiment, les 4 grands camps principaux. Après, c'était tous des petits camps itinérants qu'on trouve, donc, de Dunkerque jusqu'à Saint-Quentin. Jusqu'à Reims, qui était là le temps d'une offensive et qui n'accueillait des fois pas plus de 80-150 travailleurs chinois, mais toujours en mouvance.
Alors en tout cas, les relations avec la population n'ont pas été faciles, parce que même si parfois ils échangeaient des choses, et les Chinois avaient une réputation de bandits, d'escrocs, de violence, etc., et certains défrayaient la chronique judiciaire. Et vous citez dans votre livre la bande des loups blancs. Alors, qui étaient ces loups blancs ?
Alors, ces loups blancs, c'est une organisation criminelle qui s'était instaurée tout de suite, dès l'arrivée des travailleurs chinois, initiée d'ailleurs par des encadreurs, des chargés d'encadrement de compagnies de travailleurs chinois, qui avaient compris le truc, c'est que quand tous les mois ils envoyaient les 20 fameux francs ou dollars mexicains à leur famille en Chine, ils les envoyaient simplement par mandat. Donc ils allaient, ils déposaient les sous, et puis ces sous n'arrivaient pas parce qu'ils étaient volés par cette fameuse bande des loups blancs, et qui s'était vraiment renforcée à un tel point que c'était devenu un gang organisé qui avait ramifié, jusqu'en Algérie, mais je pense que c'est aussi parce qu'il y a eu des Anglais qui ont été repoussés par les Turcs, qui se sont repliés sur le Maroc et l'Algérie pendant les grands combats de 14-18, parce que la guerre, elle a été mondiale, elle n'a pas eu lieu qu'en France, hein. Elle a eu lieu partout. Et je pense qu'à ce moment-là, il y a dû avoir ces fameuses ramifications qui se sont faites pour exfiltrer l'argent et continuer à les voler aussi là-bas.
Et oui, l'organisation des mafias, dès qu'il y a de l'argent... Quelque chose d'intéressant, je trouve, c'est que ce sont les Chinois qui ont choisi l'emplacement du cimetière de Nolette.
Alors, il y a le cimetière, mais il faut bien imaginer qu'à l'époque, le camp de Noyelles-sur-Mer faisait 34 hectares. C'était un camp immense. Et à l'extérieur du camp, il y avait cet endroit-là, Parce qu'à l'époque, il y avait des marécages, c'était toujours humide, il y avait beaucoup de vent. Et les travailleurs chinois disaient qu'ils voulaient être enterrés là, c'était l'endroit idéal pour être enterrés, parce qu'il y avait suffisamment d'eau et de vent pour que les âmes puissent s'envoler.
C'était le feng shui.
Oui.
Malgré tout, et jusqu'ici, c'est ça qui c'est cette importation. Est-ce qu'on peut dire que l'afflux des travailleurs chinois en Europe, c'est le prélude à l'immigration de l'entre-deux-guerres ?
Je pense que oui. Mais la Première Guerre mondiale a été réellement la grande période des premiers grands flux migratoires planétaires. Parce que aussi bien des Russes sont arrivés en Europe, des Chinois en Russie, des Français sont partis à l'étranger ou sont restés à l'étranger. Je pense que c'est réellement les prémices des grands afflux migratoires que l'on connaît maintenant. Et je vais vous dire quelque chose, j'ai fait une expérience assez récemment. J'ai pris une map monde et j'y ai reporté les grands foyers de guerre et de conflits et les grands intérêts commun de 1914 à 1918, et je l'ai superposé avec la même de 2018. Et à part que nous ne sommes pas en guerre sur le territoire français, que l'ennemi a changé de visage, que l'agresseur a changé de visage en Europe, puisque maintenant on parle plus que notre ennemi principal serait la montée de l'islamisme intégriste, la planisphère est la même. On se bat toujours en Syrie, parce qu'à l'époque, la France voulait se partager l'Irak, la Syrie, entre l'Angleterre. Il y avait toujours le gaz, il y avait toujours le pétrole, il y avait toujours ses intérêts. Ils sont toujours les mêmes. Il y a toujours l'Ukraine, l'Irak, les foyers de revendication, je dirais, de pouvoir lié au business, est toujours le même. Et donc, à quoi donc a servi l'expérience de ces guerres-là, si c'est pour en être toujours au même point ? La Syrie, à l'époque, hein, on se battait pour avoir la Syrie, pour avoir... Et aujourd'hui, rien n'a changé.
Voilà, qui n'est pas très rassurant. Alors, après la guerre, la majorité des travailleurs sont rentrés en Chine, mais pas tout de suite. Et puis, certains sont restés. Ils ont fait souche. Et vous donnez un visage à deux de ces travailleurs chinois, dont vous faites le portrait, Ho Yong-ki et Yen Pao-yong. Qui étaient ces hommes et comment vous avez rencontré ces familles ?
J'ai rencontré ces familles tout au début de mes recherches, en 2005, 2006, quand j'ai commencé à semer des petites graines sur le net, sur des blogs de la marine, des blogs de l'armée, des blogs franco-chinois, en disant je recherche des descendants. J'ai été contactée par ces descendants-là, de ces deux familles, qui m'ont parlé de leur grand-père. Et puis pour eux, j'ai fait quelques recherches et j'ai pu retracer un peu le parcours en France et leur expliquer comment s'était passé le voyage de leur grand-père, parce que de ça, ils n'avaient jamais rien su, réellement. Et ça a été pour eux un grand choc d'imaginer dans quelles conditions ont voyagé leurs ancêtres. Alors, j'ai choisi Yen Pao-yong et Ho-yong-ki pour être finalement mes deux porte-drapeaux des travailleurs chinois engagés par la France, parce que tous les deux ont vécu deux expériences très, très, très différentes. Par exemple, Yen Pao-yong a eu une vie très dure, très difficile, parce que... il a rencontré son épouse qui, lui, n'a pas été acceptée par la belle famille. Ils se sont enfuis tous les deux. Et... Quand la guerre a été terminée, ils l'avaient remis dans un bateau et elle est allée le rechercher parce qu'ils avaient des enfants. Ils n'avaient pas le droit de se marier, c'était interdit par la loi. En 1921, quand il a été le temps de rentrer en Chine, ça a été dramatique pour eux. Il a fait de la prison, ils ont mal vécu, ils ont souffert du froid, de la faim. Et par contre, Ho-yong-ki, lui, a été accepté par sa belle famille. Et il a une vie plus équilibrée, je dirais, moins dure. Il a pas une vie facile. Je dis pas que ça a été facile, hein, les périodes de guerre. Hein. Mais je pense qu'il s'en est mieux sorti psychologiquement. Mais tous les deux ne sont plus jamais retournés en Chine. Et pour eux, ça a été, je pense, pour un Chinois, ne abandonner la terre des ancêtres. Parce que quand ils sont arrivés en France, ils avaient déjà 25, 30 ans, 18 ans, 25 ans, 30, voilà. Ils étaient déjà mariés pour la plupart. Ils avaient déjà un foyer en Chine qui se mariait tôt à l'époque. Et les femmes françaises qui ont suivi leurs amours chinois en Chine, quand elles sont arrivées là-bas, se sont confrontées à l'épouse principale et sont passées au stade de l'épouse en France à la concubine entre guillemets, parce qu'ils n'avaient pas le droit de se marier à ce moment-là, mais ça a été très difficile. Certaines se sont rentrées, n'ont pas pu le supporter. D'autres, je ne sais pas ce qui est arrivé. Mais Par contre, les hommes qui sont restés en France, eux, ont tout abandonné. Ça a dû être très, très difficile. Et c'est pour ça qu'ils ne parlaient pas de leur passé aussi.
Quand vous dites qu'ils n'avaient pas le droit de se marier, c'était qu'ils n'avaient pas le droit de se marier en Chine.
En France.
En France, un Chinois et une Française
ne
pouvaient pas se marier.
Il a fallu attendre vraiment 1924, 1925 pour qu'ils puissent... Alors souvent, ils avaient déjà eu des enfants, pour reconnaître les enfants, pouvoir se marier... Et ce qui fait que des fois on arrive à des absurdités où l'aîné des enfants n'était pas reconnu par le père. Il a fallu attendre plusieurs années après la libération et la libération, après les contrats de travail, pour pouvoir procéder à la régularisation du foyer.
Alors comment s'est passé le retour des travailleurs en Chine après la guerre, ceux qui sont pas restés ici et qui sont retournés dans leur pays ?
Il y a plusieurs cas de figure. Il y a ceux qui sont retournés à leur pauvreté, parce que la situation en Chine à l'époque n'était pas mieux. Hein. C'était parce qu'en 1919, il y a eu le début des grands mouvements révolutionnaires et tout ce qui s'en est suivi, hein, dans les 70 années qui ont suivi, ça n'a pas été facile. Beaucoup se sont retrouvés, des familles entières dans des camps de travail. Beaucoup d'archives ont disparu, donc on a du mal à réellement évaluer la situation. Après, il y a eu des familles réellement à qui l'envoi de cette petite solde mensuelle a vraiment permis de survivre et puis de mettre un petit pécule de côté et créer une économie, acheter un lopin, pouvoir se nourrir. Donc sont rentrés dans des meilleures conditions.
Bon, il y a plusieurs histoires différentes.
Oui.
En tout cas, cette histoire sino-française ne s'est pas arrêtée à la fin de la guerre en 1918. Et donc, quel rôle ont joué les travailleurs chinois qui sont restés dans la reconstruction en France ?
Le contrat de main-d'œuvre participant à l'effort de guerre s'est terminé entre 21 et 23 pour ceux enrôlés par la France. À partir de 1919 jusqu'en 1923, ils ont participé à la reconstruction des voies ferrées, des routes, de toutes les structures, les infrastructures, je dirais, françaises. Et puis, ils ont travaillé parce qu'il fallait aussi remplacer tous les morts, parce que cette guerre, elle a été particulièrement meurtrière. Donc, ils ont travaillé aux usines chez Citroën, par exemple. On voit bien qu'à partir d'après la guerre, ils arrivent dans les usines de mécanique automobile.
Et Renault, bien sûr.
Oui, Renault. Et beaucoup sont restés à travailler à la mine, dans la chaudronnerie. Et puis, à l'issue de cette reconstruction industrielle et infrastructurelle, certains sont restés chez leur employeur et ont trouvé un travail et sont restés en France.
Voilà, et c'est comme ça qu'ils se sont mariés, voilà. Etc., etc. Et qu'aujourd'hui, on peut rencontrer leurs descendants. Alors, il y en a plus que deux, en tout cas.
Oui.
Et donc, voilà, on peut chercher. Ça peut être une bonne façon de
là, en ce moment, ce qui me fait plaisir, c'est qu'il y a réellement un mouvement qui est en train de se mettre en route de descendants de travailleurs chinois en France et qui essaient de se rencontrer. Donc, à chacune de mes conférences, je rencontre de nouveaux descendants. Et puis, petit à petit, on les fait se rencontrer. Par exemple, hier soir, une dame m'a dit, mais moi, mon père s'appelait Chang. Et moi, il se trouve que ce Chang-là, qui travaillait à la machine, a été un copain de Yen Paoyong.
Mm-hmm. D'accord.
Qui travaillait à la machine aussi, oui. Donc c'est extraordinaire.
Le réseau va se reconstituer.
Et j'aimerais bien les faire se rencontrer, vraiment, ces deux familles-là.
Ben, oui, et puis après, ça alimente aussi ses recherches, etc. Vers quoi justement s'orientent aujourd'hui vos recherches ?
Principalement sur les travailleurs chinois qui ont travaillé, qui ont été enrôlés en dehors de la France. Et mes recherches, je pense réellement, sincèrement, avoir trouvé beaucoup de choses. Et mon travail principal actuellement est de faire avancer sur la reconnaissance de leur présence dans ce premier conflit mondial. Et je milite, enfin maintenant, depuis 2012, je milite pour que les communes ayant eu des travailleurs chinois sur leur sol pendant la Première Guerre mondiale érigent quelque chose, soit une plaque, un square, et rentrent dans les commémorations du 11 novembre les travailleurs chinois. Voilà.
Bon, ben ça, c'est effectivement une très bonne chose. En tout cas, je vais laisser le mot de la fin au docteur Stöcker, qui connaissait très bien la Chine pour y avoir vécu et avoir été responsable du département ophtalmique de l'hôpital du camp de Noyelle, dont nous avons parlé tout à l'heure. Et ce docteur Stöcker disait... C'est juste une question de temps. Les Chinois sont faits pour devenir acteurs d'une nation des plus puissantes au monde. Eh ben moi, je trouve que c'était un sacré médecin visionnaire, en tout cas.
En 1914, il avait déjà écrit cela.
Ben voilà, donc 1914, voilà, c'est... mais il connaissait la Chine. Donc voilà, il avait compris de ce que la Chine pouvait devenir. En tout cas, Catherine Costanza, merci. Je rappelle que l'on peut lire avec profit et beaucoup d'intérêt « Les oubliés de Nolette », un ouvrage très bien illustré dans lequel on apprend une foule de choses, et puis bientôt un autre livre, donc.
Oui, qui s'appelle... Alors, je voulais... les éditions Strapontin n'existent plus depuis longtemps,
bon.
Mais j'ai repris à mon compte l'édition de ce livre-là, et il s'appelle donc « The Way High à Noyelles-sur-Mer », et le volume 2 s'appelle « Du silence à la reconnaissance ».
Et on peut le trouver sur Internet. Et donc on tapera Catherine Costanza.
Voilà.
Et on le trouvera.
J'ai une page Facebook au nom des Chinois oubliés.
Tout à fait.
On peut me contacter très facilement.
Oui, ça marche. Je peux l'attester. Ça marche bien. Eh bien, ce serait parfaitement le moment, je pense, de lancer le générique. Donc je disais qu'il était bientôt 13h à Lille et 19h à Pékin. Et que Bruit de Chine, c'est fini pour aujourd'hui.